Bonjour à tous. Je vous invite à trouver l'évangile de Luc au chapitre 2. Le chapitre 2 de l'évangile de Docteur Luc. Luc était un médecin, c'est pour ça que je l'appelle Docteur Luc. Ah, il y a des enfants qui vont peut-être sortir. Voilà, on va attendre le petit temps de mouvement. L'évangile de Luc, chapitre 2. Est-ce que vous avez pu compter combien de fois par jour vous dites « il faut » ? La phrase « il faut » est utilisé par tout le monde, je ne sais pas combien de fois par jour. Un prof va dire à son élève, il faut que tu révises, parce que le bac c'est dans un mois. Une maman va dire à son fils ou à sa fille, il faut que tu te lèves, parce que sinon tu vas rater le bus. Un entraîneur de foot dit à son équipe, il faut qu'on gagne, sinon on va être relégué en D2. Au pire, en CFA. Il faut que j'arrête mon message avant 15 heures, sinon vous allez respecter. Il faut. Quand on dit il faut, il s'agit en principe toujours de quelque chose d'important, voire de nécessaire ou de capital. Il faut. Il s'agit d'un impératif, d'une exigence. Et ces dernières semaines, j'ai parcouru l'évangile de Luc très lentement et j'ai remarqué que Jésus emploie le terme « il faut » plusieurs fois. Et j'aimerais regarder ces versets avec vous. J'en ai trouvé 4 références, ou 5, il faut dire. Mais Jésus dit « il faut » plusieurs fois dans l'évangile de Luc. Et c'est pourquoi, ce matin, j'ai intitulé le message « les 4 il faut de Jésus ». Dans l'évangile de Luc. Et le premier « il faut » de Jésus, c'est dans Luc chapitre 2, et je propose la lecture de ce verset, Luc 2, c'est l'histoire de Jésus qui est perdu, entre guillemets, au temple. Luc 2, 49. Jésus parle ses paroles. Luc 2, 49. Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » À l'époque, les Juifs devaient se réunir à Jérusalem au moins 3 fois par an pour des fêtes religieuses. Et pour ceux qui habitaient loin, il n'était pas toujours facile de se rendre 3 fois par an à Jérusalem. Alors, les Juifs choisissaient de se rendre à Jérusalem plus le week-end de la Pâque que d'autres week-ends. Il faut que je parle un peu plus fort, n'est-ce pas? Donc, les Juifs se rendaient à la Pâque à Jérusalem, ils venaient de partout, et ceux qui habitaient loin s'organisaient pour se déplacer en groupe. Et souvent, c'était les femmes devant, les hommes et les enfants derrière, et ils se déplaçaient en groupe à Jérusalem. Donc, Jésus, à l'âge de 12 ans, comme tous les ans, il allait à Jérusalem. Les enfants étaient là avec les parents, après quelques jours de fête, ils repartent, et c'est après une journée de marche que Joseph et Marie se rendent compte, mais il est où le petit? Il est où? 24 heures, ils avaient perdu leur fils sans se rendre compte. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de perdre un enfant dans une foule, ça nous est arrivé 2 fois, avec notre dernière Meryl, et les 2 fois, elle était sous la responsabilité de deviner qui? De son papa. La première fois, elle avait 4 ans, la deuxième fois, elle avait 5 ans. La première fois, c'était à l'étranger, à Édimbourg, lors d'une grande fête estivale. Des milliers de personnes au centre de la grande ville d'Édimbourg, et Brigitte et moi, on était là avec nos 4 enfants, et il y avait plein d'animations de rue, et on a dit, ben, écoute, Brigitte, tu prends 2, moi, je prends 2, et on va voir les animations. Donc, j'avais Meryl, et un autre, ou une autre, je ne me souviens plus qui, et on se promenait, Et à un moment donné, j'étais assis, il y avait une grande foule avec des artistes de rue qui faisaient un peu d'acrobatie. Et je regarde, Brigitte est en face, dans la foule, et je vois, elle a deux enfants. Et je regarde autour de moi, et je n'en ai qu'un. Et j'ai, ah ben, Meryl, elle n'est pas là-bas, donc j'ai fait semblant, bien sûr, de ne pas agir, ou peu, avoir peur. Et je regarde Brigitte là-bas, et je dis, ah, non, il n'y en a que deux. Et moi, je n'en ai qu'un. Donc, pour montrer que je suis comme un homme, un mec, et j'ai peur de rien, je dis, bon, je vais quand même prendre l'autre et aller me promener. Je vais voir Brigitte parce que je dois confesser, avouer mes fautes à ma femme. Je lui laisse l'autre, et puis je vais aller chercher la petite. Et puis après 20 minutes, je vois une caravane avec la police nationale dessus, et je passe devant la caravane, et qui est assise dans la caravane, presque en train de boire un café, de hauteur de ses 4 ans, Meryl, elle était là en train de... Ouais, elle ne discutait pas parce qu'elle ne parlait pas l'anglais à l'époque. Donc elle était là avec la dame, la policière, le policier. Donc j'arrive, je me présente et puis elle vient avec moi sans souci. 20 minutes, on l'avait perdu. La deuxième fois, c'était une heure, mais c'était dans une petite ville et on l'a retrouvé sans problème. Mais on peut perdre l'enfant dans la foule. Et dans cette foule immense à Jérusalem, et pour la route du départ, Marie et Joseph se rendent compte, mais Jésus, il n'est pas là. Et ce n'est qu'après 3 jours, c'est marqué dans le texte, après 3 jours, ils rencontrent, ils retrouvent leur fils, Jésus. Il est au temple, avec les maîtres de la loi, avec les membres du conseil municipal, et il est en train de les écouter, de les interroger, et eux, ils sont en train d'écouter Jésus et d'interroger Jésus. 12 ans. Ils lui posent des questions. Et ils sont stupéfaits, le texte nous le dit, par sa sagesse, par sa connaissance, par son intelligence. Marie et Joseph arrivent et Marie dit, elle lui parle de leur angoisse. Et Jésus parle à Marie et Joseph, non pas de son angoisse, mais de son activité. Et il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste. Même à 12 ans, il savait que la priorité dans sa vie était de faire ce que voulait son Père. La priorité dans sa vie était de s'occuper des affaires de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Vous savez, il y a toujours des chrétiens qui aiment bien s'occuper des affaires des autres, qui aiment se mêler des affaires des autres. Mais Jésus ne nous demande pas de faire ça. Il nous demande de nous occuper des affaires de notre Père Céleste. Ailleurs, Jésus dit la même chose avec d'autres mots. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La priorité. Faire ce que Dieu veut. C'est pour ça que je l'appelle le « il faut du service ». Chaque chrétien a été sauvé afin de servir Dieu là où Dieu nous a mis. Donc la question qui s'impose, c'est tout simplement, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Quel service accomplissons-nous au nom du Seigneur? Donner un verre d'eau, donner une Bible lors du marché du samedi dans le 8e, évangéliser, accueillir à la maison, prier. Vous savez, parfois, avec les années qui passent, tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Mais prier, c'est peut-être plus important que de parler. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de faire mon culte personnel et dehors, et la pluie a commencé à tomber. Et je venais juste de lire que dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, chaque chrétien est un affranchi du Seigneur et un esclave du Christ. On est à la fois affranchi, mais on est à la fois esclave. C'est-à-dire, nous devons être des serviteurs du Christ. Donc la question, Jésus savait qu'il vient, il faut du service. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? L'autre jour, j'ai lu le témoignage d'une école chrétienne à Lubumbashi, qui est en République démocratique du Congo. Et il y a des chrétiens qui sont allés là-bas, qui ont quitté leur pays d'origine. Ils étaient instituteurs avec une belle carrière, un beau salaire. Ils sont partis au Congo pour fonder une école chrétienne pour enfants sourds et muets. Et cette école s'appelle Ephata. Et si vous connaissez l'araméen, et j'espère que vous connaissez ce mot, ça veut dire « ouvre-toi ». Ça vient de la bouche de Jésus dans les évangiles. « Ephata, ouvre-toi ». Et ils servent le Seigneur malgré les risques énormes dans un pays en guerre. Ils servent le Seigneur fidèlement parce qu'ils aiment les enfants, parce qu'ils aiment le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Le premier « il faut » de Jésus. Le deuxième « il faut » de Jésus se trouve dans Luc chapitre 4. Je vous invite à trouver ça avec moi. Luc chapitre 4, versets 42 et 43. J'appelle ce « il faut » le « il faut » de la soumission. Luc 4, 42. « Quand il fit jour, Jésus sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il faut que j'annonce la bonne nouvelle, pas que ici, mais ailleurs. C'était son ministère. Nous avons déjà parlé de l'évangélisation ici à Lyon. Mais Jésus, vous vous rendez compte, était sollicité de toutes parts. Tout le monde voulait être guéri. Tout le monde voulait être exorcisé. Tout le monde voulait voir des miracles. Et Jésus dit, mais ma priorité, ce n'est pas ça. Ma priorité, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce du pardon des péchés. Son ministère était l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'était un peu le thème de mon message il y a quelques semaines ici même, donc je ne vais pas y revenir. Mais pour Jésus, il avait une priorité dans sa vie et il voulait se soumettre aux ordres de son Père Céleste. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le « il faut » de la soumission. Est-ce que quelqu'un ici sait que Dieu est en train de mettre son doigt sur quelque chose dans sa vie? Et Dieu est en train de vous dire, remets-moi ça. Soumets-toi à moi dans ce domaine-là de ta vie. Si c'est le cas, eh bien, le Seigneur vous invite à vous soumettre à lui dans ce domaine-là, avec cette question-là, avec ce sujet-là. Il faut qu'on se soumette au Seigneur. Le « il faut » de la soumission. Le troisième « il faut » se trouve dans Luc chapitre 9. Et il s'agit du « il faut des souffrances ». Le « il faut des souffrances ». Luc 9, 22. Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus avait déjà fait allusion au fait qu'il devait souffrir et mourir. Les disciples l'avaient déjà entendu. Mais maintenant, Jésus devient de plus en plus explicite. Et il explique en détail qu'il va mourir. Mais avant cela, souffrir, pas seulement physiquement, mais dans plusieurs domaines de la vie, avant de mourir. À trois reprises dans l'évangile de Luc, Jésus prévient ses disciples qu'il va souffrir, mourir et ressusciter. Deux fois dans Luc 9 et une fois dans Luc 18. Malheureusement, la suite des événements nous montre que les disciples avaient du mal à comprendre, avaient du mal à croire que leur ami allait mourir. Ne jetons pas la pierre, hein, parce que qu'est-ce que nous aurions fait si nous avions été là en même temps? Mais ce matin, j'ai envie d'affirmer que l'arrestation de Jésus n'était pas un accident. La trahison de la part de Judas n'était pas un événement inattendu. la mort de Jésus n'était pas un échec. Sa résurrection n'était pas une surprise. Il fallait que Jésus soit rejeté, qu'il souffre, qu'il meure et qu'il revienne à la vie. Il fallait cela pour que nous puissions être pardonnés. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, Jésus anime une étude biblique. Vous savez, Jésus a animé plusieurs études bibliques. J'aurais bien aimé être là pour voir l'animateur, le pédagogue par excellence. Et quand il anime sa dernière étude biblique dans Luc 24 avec des disciples qui ne croyaient pas encore qu'il était vivant, Jésus dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Il fallait que tout ça se passe. Jésus était déjà revenu à la vie dans Luc 24. Sa dernière étude biblique sur terre, et il explique, mais il fallait que je meure. Le « il faut » des souffrances de Jésus. Il fallait qu'il meure, afin que nous puissions être pardonnés, sauvés, renouvelés, régénérés. Chose curieuse, mais ce n'est pas curieux pour certains, il faut aussi que les chrétiens souffrent. Non pas pour être sauvés, non pas pour être pardonnés, mais Pierre, au début de sa première lettre, l'apôtre Pierre dit, « Ne vous étonnez pas si vous passez par des épreuves, parce qu'il faut que votre foi soit purifiée, éprouvée comme par le feu. » Il faut, il dit aux chrétiens persécutés, dans un Pierre, « il faut que vous passiez par des épreuves. » Donc s'il y a un « il faut » des souffrances de Jésus, il y a un « il faut » des souffrances des chrétiens. Et Colin et moi, on ne s'est pas consultés par rapport au thème de la présidence du message, mais ça se rejoint, n'est-ce pas? Le « il faut » des tempêtes. Mais merci Seigneur, il dit « tais-toi » et le calme. Même si aujourd'hui le calme ne va pas venir, le calme vient, et le calme vient aussi dans notre cœur, malgré nos tempêtes. Mais sachez bien qu'il y a des bénédictions en réserve pour les chrétiens qui souffrent, parce qu'ils sont chrétiens. Et sachez aussi que même si nous souffrons, nous pouvons connaître le secours et la consolation et la force du Seigneur au sein même de nos souffrances. Le « il faut » des souffrances. Et pour terminer, Luc 19, le « il faut » du salut. Luc 19, l'histoire de Zachée. D'ailleurs, si on regarde les quatre « il faut » dont j'ai parlé ce matin, on voit que Jésus a dit « il faut » dans quatre endroits différents. Le premier était au temple. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Le deuxième était dans un lieu désert, où il dit à ses disciples, il faut que j'annonce l'évangile. Le troisième était sur la route avec ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre. Et le quatrième, c'est ici, dans une ville, et pour être plus précis, sous un arbre, et pour être plus précis encore, pas n'importe quel arbre, mais un sycomore. Il est sous l'arbre, et il dit à Zachée, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrêté à cet endroit, il leva les yeux et vit Zachée et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête chez toi aujourd'hui. Il faut que j'aille chez toi. Alors, l'histoire de Zachée est une histoire hyper passionnante, avec plein de paradoxes. Le mot Zachée veut dire le juste. Mais Zachée, avant de rencontrer Jésus, était injuste. C'était un pécheur non pardonné. Mais Zachée, l'injuste, devient juste par sa foi en Christ. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Zachée était un homme qui devient comme un enfant, afin d'accepter Christ dans sa vie, dans son cœur, dans sa maison. Zachée était un petit qui devient un grand dans le royaume de Dieu. Zachée était un homme détesté de tous parce que c'était un collabo, détesté de tous, mais aimé de Jésus. Zachée était un homme riche qui méprise les pauvres, tandis qu'en réalité, c'était un homme pauvre qui devient riche grâce aux bénédictions reçues suite à sa conversion à Jésus-Christ. Il faut du salut. Il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Jésus voulait aller chez Zachée. Et Zachée, c'est difficile de dire Zachée quand on a traversé tout le monde. Mais Zachée voulait voir Jésus. Et les deux se rencontrent. C'est ça qui se passe quand il y a une conversion. Jésus cherche, le non-chrétien cherche, et ça se marie. Ça se rencontre. Il y a le salut, il y a la conversion. Et ce que Jésus dit après la conversion de Zachée, et c'est une de mes petites phrases préférées dans la Bible, Luc 19, verset 9, Jésus dit à tout le monde, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. J'aime beaucoup cette petite phrase, parce que le salut n'était pas dans cette maison, n'était pas dans ce foyer, n'était pas dans cette famille. Et Zachée se convertit, et c'était une étape peut-être pour d'autres personnes dans sa famille à se convertir. Je pense à l'exemple dans la ville de Philippe, dans Actes 16. Le geôlier philippien se convertit, et toute sa famille, dans la nuit, se convertissent les uns après les autres, et se font baptiser sur le champ. Le salut est entré dans cette famille. Je pense à une de nos sœurs en Christ dans la Sarthe, dans une famille de fermiers. Elle se convertit. Elle, pendant des années, elle priait pour ses parents. Après 20 ans de prière, sa maman s'est convertie. Le salut est entré dans sa famille dans les années 70 et dans les années 90, une deuxième personne dans sa famille se convertit. Il faut prier pour nos familles. Il faut prier que le salut entre dans des foyers, dans des maisons, dans des familles. Hier midi, nous avons mangé chez des amis à côté de Grenoble. La jeune femme, elle venait à un club d'enfants que nous faisions dans la Sarthe, dans une cité HLM assez difficile. Elle s'est convertie. Le salut est entré dans sa famille. Plusieurs personnes dans sa famille se sont converties. Parce qu'une personne se convertit et le témoignage s'est répandu et d'autres ont été touchés par la grâce. Prions pour les maisons représentées, même ici ce matin. Il y a parfois le salut dans des maisons. Mais priez que le salut entre dans d'autres maisons, dans d'autres foyers, dans d'autres familles. Prions pour nos familles, les membres de nos familles qui sont chrétiens. Prions pour les membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens. Certains suivent ce cahier 30 jours de prière pendant le Ramadan. Et plusieurs fois, on nous demande de prier pour les couples chrétiens dans des pays musulmans. Et plusieurs fois, on nous demande de prier que des couples chrétiens soient solides, stables dans les pays musulmans. Et moi, j'ai envie de dire, on a besoin de prier pour des couples chrétiens dans les pays non musulmans. Dans notre église, on a besoin de prier, Dieu garde nos couples, garde, protège nos familles. Il y a de plus en plus de chrétiens, couples chrétiens, qui divorcent, qui se séparent. Et nous avons besoin de prier, Seigneur, il faut qu'on prie pour nos couples chrétiens. Pour nos familles chrétiennes, est-ce que ça existe une famille chrétienne? C'était un autre débat. Mais pour nos familles dans l'Église, pour qu'ils soient des témoins auprès d'autres familles qui ne sont pas converties. Le « il faut » du salut. Il faut que je vienne chez toi, Zachée. Jésus a dit quelque chose de semblable à un chef religieux pendant la nuit, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tout ceci m'amène à dire que si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, Jésus dit, il faut que tu deviennes chrétien. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu naisses de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de quelque chose partie hyper importante, de capitale. Il s'agit d'une exigence de la part du Seigneur. Mais il nous laisse libre pour choisir si on veut ou pas. Je conclue. Le « il faut » du service. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Le « il faut » de la soumission. Est-ce que nous sommes vraiment soumis? Ou est-ce que nous sommes rebelles dans certains domaines de notre vie? Le « il faut » des souffrances. Confiez vos souffrances, vos difficultés au Seigneur, car il sait exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et lui seul peut vous comprendre. D'ailleurs, nous avons chanté ça tout à l'heure. Quel ami fidèle et tendre, toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre. Il peut aussi nous consoler, nous fortifier. Le « il faut » du salut, laissez-vous sonder par Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment converti? Ou est-ce que vous avez besoin d'ouvrir la porte de votre cœur, la porte de votre maison, pour dire « Seigneur, pardonne-moi. Tu as souffert pour moi, tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour moi. Seigneur, pardonne-moi, je veux vivre pour toi. » Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton enseignement et tant de choses sont tellement faciles à comprendre pour nous, 20 siècles plus tard. Merci Seigneur de nous aider à vivre comme des vrais serviteurs de notre Maître. Aide-nous à choisir les bonnes priorités dans notre vie. Aide-nous aussi à vivre dans la soumission. Merci de nous aider dans nos souffrances. Et nous te prions aussi de nous aider à annoncer le message du salut. Merci pour le salut qui est entré chez nous. Et nous te prions de nous aider à partager la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.